Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM et de prendre part à ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Quel est donc le sujet du jour aujourd'hui? Eh bien, avec la découverte des ossements de la petite Cédrica Provencher, je parlerai de pédophilie. Heureusement, mesdames et messieurs, la pédophilie n'est pas vue d'un bon œil au Québec. Et oui, en 2007, un sondage exclusif Léger Marketing, Journal de Montréal, TVA et 98,5 FM indiquait que 96% des Québécois considère la pédophilie comme étant un comportement immoral. Effectivement, la pédophilie est immorale pour 96% des Québécois, pour ne pas dire la presque totalité des Québécois. On comprend pourquoi les réactions sont vives au Québec à l'annonce de la découverte des ossements de la petite Cédrica Provencher disparue le 31 juillet 2007. On pouvait lire hier, entre autres, les réactions d'Isabelle Maréchal sur les pages du Journal de Montréal dans un article intitulé « Un pédophile en cavale ». Et voici ce que nous dit Isabelle Maréchal dans cet article. « La découverte de Cédrica, c'est surtout la fin de l'espoir. La jeune fille qui aurait 15 ans aujourd'hui ne reviendra jamais à la maison. Elle n'aura pas de premier chum ni de balle de fin d'études. Ce qu'on lui a volé, à elle et à ses proches, n'a pas de prix. » Celui qui a fait ça, va-t-il finir par payer pour son crime? Et elle ajoute par la suite, le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, dont la fille a été assassinée par un récidiviste, est convaincu que Cédrica serait vivante si un registre des prédateurs sexuels existait au Québec. Peut-être, mais ça fait des années qu'on en discute et rien ne se fait. Vous savez, effectivement, on en discute et j'en ai parlé hier de ce registre. J'irai pas plus loin là-dessus. Mais si vous voulez écouter l'émission d'hier pour avoir plus de détails sur ce registre, vous pouvez le faire via la plateforme ericlantier.net. Et par contre, vous avez quand même un outil transitoire qui est offert par le Journal de Montréal et qui est la carte des prédateurs sexuels. Et donc, à ce moment-là, sur le site ericlantier.net, vous pourrez consulter. Par exemple, lorsque vous allez insérer les trois premiers symboles de votre code postal, eh bien, vous allez pouvoir voir dans votre environnement si justement il y a des prédateurs sexuels. Et vous allez constater, parce qu'il y a deux cartes que je vais vous proposer qui sont présentées par le Journal de Montréal, vous allez constater qu'il y en a quand même plusieurs à travers notre province, à travers notre nation. Alors, c'est triste de constater ça. Mais en fait, qu'est-ce que la pédophilie? Hein, parce que j'en parle aujourd'hui et j'aimerais qu'on puisse faire le tour, brosser le tableau de ce que c'est la pédophilie et c'est quoi le portrait d'un pédophile. Alors, selon si on va voir sur la plateforme de Wikipédia et selon le critère de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, les adolescents de 16 ans sont classés comme pédophiles s'ils ont une préférence sexuelle persistante ou prédominante vers les enfants prépubères au moins 5 ans plus jeunes qu'eux. La pédophilie est classée comme trouble de la préférence sexuelle, trouble mental, par la classification internationale des maladies et comme paraphilie par le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, DSM. Donc, on voit que le CIM et le DSM, justement, qualifient que c'est un trouble de préférence sexuelle, trouble mental, et ça fait partie des diagnostics de troubles mentaux. Et donc, les milieux médicaux considèrent que la pédophilie relève de la maladie, de la déviance, de la perversité, en un mot, de la psychiatrie et peut-être du soin. Il s'agit de la thèse la plus reprise dans le discours psychiatrique sur le sujet. Et donc, ils vont parler de l'étymologie du mot sur la plateforme de Wikipédia. Et donc, le mot pédophilie est formé des radicaux grecs « pès », qui veut dire « enfant », et « philia », « amitié ». Et donc, le sens étymologique du mot conduit donc à l'amitié pour les enfants. En fait, Le mot « pédérastie » conviendrait mieux au sens actuel donné au mot « pédophile » puisque « pédérastie » est formé des radicaux « pès » pour enfants et « éros », « amour sexuel ». Donc, il serait plus judicieux d'appeler, par exemple, non pas un pédophile, mais un pédéraste, ou parler de pédérastie plutôt que de pédophilie, parce que pédophilie, ça veut dire qu'on aime les enfants. Et donc, par contre, pédérastie, ça veut dire qu'on a justement un amour sexuel envers les enfants. Donc, ce serait plus juste, mais dans notre vocabulaire courant, on utilise malheureusement le mot pédophile ou pédophilie, l'expression pédophilie ou pédophile. Alors, pour ce qui est de la cause médicale, eh bien, de la pédophilie n'est pas connue avec certitude. Certains contextes personnels, comme le fait d'avoir été soi-même victime d'abus sexuels au cours de l'enfance, est attribué à peu près à 30 %. Donc, 30 % des pédophiles actifs, si on veut, ont eux-mêmes subi des abus sexuels. Donc, ce n'est pas la majorité, mais c'est quand même un large pourcentage. L'autre élément qu'il faut tenir compte, ça peut être l'existence d'un retard mental dans 15 % des cas. Donc, ça peut constituer un facteur favorisant pour le développement d'un comportement pédophile. Et donc, vous avez 30 % des sujets qui ont été abusés sexuellement, puis 15 % qui ont un retard mental. Les relations sexuelles entre un adulte et un enfant représente presque toujours, pour ce dernier, un événement traumatique porteur de conséquences psychologiques lourdes, imprévisibles et potentiellement graves. C'est ce que nous révèle la plateforme de Wikipédia. Et donc ça, c'est important qu'on puisse le mentionner parce que ce n'est pas simplement parce qu'il y en a qui vont dire « oui, mais si l'enfant est consentant, si l'enfant, par exemple, éprouve des plaisirs lors de l'acte, eh bien, écoutez, ça représente presque toujours pour cet enfant un événement traumatique porteur de conséquences psychologiques lourdes, imprévisibles et potentiellement graves. » Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un genre de courant de pensée dans les années 60 à 80, donc au siècle dernier. Et dans les années 60, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, FHAR, prend en France la défense des pédophiles, de même que certains courants de l'extrême gauche. Dans les années 70, des organisations pédophiles comme la NAMBLA aux États-Unis et MARTIJN aux Pays-Bas ont fait partie de l'International Lesbian and Gay Association et n'en ont été exclus que dans les années 90. Et donc, les discours favorables à la pédophilie disparaissent progressivement dans l'espace public, notamment à partir des années 80. C'est néanmoins au cours des années 90 que s'ouvre un vrai débat public. Donc, on voit qu'il y a comme un intérêt public chez certains groupes de faire la promotion de la pédophilie dans les années 60, 70. Mais là, on commence à réagir dans les années 80. Et dans les années 90, on voit que le discours sur la pédophilie ne passe pas. Et donc, dans la plupart des législations du monde, l'acte sexuel entre un adulte et un enfant est illégal et sévèrement réprimé vis-à-vis de l'adulte, considéré comme le seul coupable et responsable. Et donc ça, c'est important de s'arrêter là-dessus, parce que justement, moi, ça me faisait peur dans les années 80, quand on commençait à discuter, puis quand on voyait qu'il y avait des plateformes, puis il y avait des groupes qui faisaient la promotion de la pédophilie, j'avais énormément peur et je suis content que dans l'opinion publique et dans les législations, eh bien, on a gardé ce caractère-là, on s'est opposé et les pays ont mis en place des lois pour contrer justement ces courants-là et réprimer et condamner ceux qui pratiquaient la pédophilie. Dans certains pays, il y a des lois qui vont aussi condamner non seulement l'acte, mais la possession d'œuvres d'imagination, comme par exemple des photos, des vidéos, des illustrations, etc. Et ça, c'est vraiment important. Mais qui sont vraiment les pédophiles? Et là, j'ai été voir la plateforme psychologie avec un S.com, et ça nous dit que la plupart des agresseurs semblent avoir eu une puberté marquée par l'inhibition et la frustration. Quelque chose a compliqué le passage vers une sexualité adulte, si bien que certains d'entre eux sont restés sur un érotisme prépubère. C'est comme si il n'y a pas eu un déblocage à un certain moment. à un certain moment donné dans leur développement sexuel et dans leur maturité ou leur maturation. En gros, ils continuent de jouer au docteur. Enfin, les pédophiles ont souvent une personnalité disharmonique, caractérisée par l'instabilité et l'impulsivité. Et lorsque ces trois éléments sont réunis, en parlant de l'agression subie, l'adolescence difficile et la personnalité problématique, le cocktail peut être détonnant. Donc, si vous avez une de ces trois caractéristiques, ça ne veut pas dire que vous allez devenir un pédophile, mais si vous avez les trois, là, vous êtes à risque, ça c'est clair. Et donc, on nous dit sur cette plateforme-là, est-ce qu'on ne devrait pas les soigner plutôt que les incarcérer? Mais ce que je trouve intéressant sur ce que nous révèle psychologie.com, écoutez bien ceci, c'est que les peines encourues par les pédophiles varient de 18 mois à 5 ans en correctionnel, pour les attouchements, par exemple, sans pénétration, et de 10 à 20 ans aux assises pour les viols sur mineurs. Le soin prévu par le jugement ne démarre qu'après la libération, soit plusieurs années après les faits, non par manque de moyens. C'est un choix éthique du législateur qui considère que la privation de liberté est déjà porteuse d'effet. L'expérience prouve que, et écoutez bien ça, pour de nombreux pédophiles, le seul fait d'avoir été puni par la société, d'avoir rencontré l'opprobre et la honte, suffit à empêcher la récidive. Et donc, les agressions sur mineurs de type pédophile sont les plus récidivantes, autour de 20% contre 10% pour les violeurs de femmes adultes et 5% pour les pères incestueux. Il n'empêche que 80% des pédophiles qui ont été incarcérés ne récidivent pas. Et ça, c'est important comme statistique. Parce que si vous ne savez pas ces statistiques-là, justement, votre perception de la pédophilie et la perception, justement, de l'incarcération des pédophiles peut être mise en cause. Et qu'en est-il des cyberprédateurs, les pédophiles de la toile? Eh bien, il y avait un article de la presse qui a été écrit par Annabelle Nicoud et on dit ici d'abord les chiffres et ensuite leur profil. Plus de pédophiles, mais une traque plus intensive. Et qu'est-ce que nous dit Annabelle Nicoud? Elle dit que plus de signalements, plus d'accusations. Au cours des dernières années, le phénomène des cyberprédateurs sexuels et des consommateurs de pornographie juvénile est loin de s'essouffler parce qu'il a pris de l'ampleur. Et c'est ce que démontrent les chiffres compilés en 2009, 2010 et 2011 par le Centre national de coordination contre l'exploitation des enfants de la GRC. C'est NCEE que la presse a obtenu. Écoutez bien ça. En 2009, le CNCEE a recensé plus de 3000. Un an plus tard, le CNCEE a reçu plus de 4974 plaintes et signalements et 3491 durant les trois premiers trimestres de 2011. Ces signalements peuvent provenir des différents corps de police internationaux et nationaux, mais aussi du site cyberaide.ca. Depuis 10 ans, le nombre de personnes accusées de pornographie juvénile a nettement augmenté au Canada. En 2003, moins de 200 personnes ont été accusées d'infractions de pornographie juvénile dans tout le pays. 7 ans plus tard, en 2010, ça veut dire, elles ont été un peu plus de 500 à répondre à des accusations de ce type. Et ça, c'est important. Et je vais mettre aussi sur mon site un lien qui parle du profil des consommateurs de pornographie juvénile. Ça parle de l'exploiteur, le pervers et les polymorphes. Et vous allez voir, c'est une étude assez intéressante, bien documentée. Et on parle aussi, est-ce que la consommation de matériel pornographique juvénile a un lien avec l'agression sexuelle? Dans certains cas, non, et dans d'autres cas, oui. Et donc, ça peut jouer un rôle, effectivement. Ce qui est intéressant, pour conclure, j'aimerais vous donner des informations qui ont été publiées sur le réseau juridique du Québec. Pourquoi? Parce que sous le Code criminel du Canada, les actes qui suivent sont des offenses qui portent une pénalité maximale de 10 ans de prison. Et voici ce qui est condamné selon le Code criminel du Canada. Communiquer ou envoyer de la pornographie infantile, mettre de la pornographie infantile sur un site web ou créer un lien vers de la pornographie infantile à partir d'un site web. Exporter de la pornographie infantile, posséder de la pornographie infantile pour des fins d'exportation, de rendre disponible ou de transmettre. Et donc, à ce moment-là, les lois Donc, le code criminel s'est justement ajusté à cette nouvelle réalité électronique. Et donc, la pédophilie est un problème majeur. Je suis content que la majorité, la presque totalité des Québécois considèrent que la pédophilie est quelque chose d'immoral. On a vu ensemble que l'incarcération joue un rôle important parce qu'il y a quand même 80% des gens incarcérés qui ne sont pas récidivistes. Mais il faut se donner des moyens justement pour mieux encadrer ces gens qui sont reconnus coupables de pédophilie parce qu'il y a eu des victimes et on n'en veut pas plus. Alors, c'est déjà le temps de clore cette émission. Je vous invite donc à être des nôtres du lundi au vendredi à 8h05 et à 20h05 pour parcourir votre tour d'horizon. Si vous désirez poursuivre la discussion, je vous invite à m'écrire à l'adresse suivante. C'est leblogueur@commercialericlantier.net, leblogueur@commercialericlantier.net. N'oubliez pas que cette émission est également disponible sur le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir syntonisé le 92,7 FM et je vous dis à demain.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le tour d'horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. leblogueur@commercialericlantier.net. Tour d'horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre tour d'horizon. Au revoir!